Bienvenue sur le 89.5 de la bande FM, sur la toile les www.radiodio.org. Bienvenue sur cette antenne pour une émission mensuelle spéciale, émission réalisée en partenariat, collaboration avec le GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, une collaboration qui s'est installée maintenant depuis quelques saisons sur l'antenne du 89.5 et qui reprend du service pour cette saison 2012-2013 précisément, à venir une série de 10 émissions environ que l'on va vous proposer toute cette saison. Une émission mensuelle à retrouver le troisième jeudi de chaque mois. C'est en direct entre 12h et 13h et en rediffusion entre 17h et 18h. Alors, pour ce jour, pour ce mois d'octobre 2012, une émission particulière qui, là aussi, est la suite de quelques programmes qui ont été entamés il y a déjà quelques temps. C'était en 2011 et 2012 même. Au premier semestre 2011, deux émissions portait sur les activités du monde ouvrier dans le bassin stéphanois pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, en mai l'année dernière, une sorte de troisième volet portait sur les fruits de cette histoire et la reconstruction des syndicats CGT, CFTC, notamment dans la Loire après-guerre, sur les années 44-45. Et eh bien, il s'agira là encore d'une sorte de suite quatrième volet, émission spéciale consacrée à la naissance et le début des syndicats FO-CGT sur cette période de 1946 à 1950, donc toujours après-guerre. Et pour nous parler de cela, nous accueillons aujourd'hui eh bien, deux historiens en les personnes de Jean-Paul Benthière et Jean-Michel Steiner. Bonjour à vous.
Bonjour.
Nous allons passer donc 60 minutes ensemble. Je rappelle tout simplement, avant de vous laisser la parole, que toutes les informations concernant le GREMOS et notamment les émissions que nous réalisons ensemble sont disponibles, archivées, téléchargeables sur un site désormais en place et dédié que sont l'adresse suivante www.gremos.net. Alors on entame cette émission spéciale donc qui concerne la naissance, le début des syndicats, notamment FO, hein, après-guerre.
Bien.
Jean-Paul Benthière pour commencer.
D'accord. Bonjour. Alors, effectivement, en mai, nous avions fait une émission sur la reconstitution de l'UD-CGT et de l'UD-CFTC de la Loire de 44 à 47. Il nous a semblé qu'il fallait redire quelques mots avant de commencer cette première émission-là. Donc, ces deux syndicats, mais je vais parler moi de la CFTC et ensuite Jean-Michel prendra pour la CGT, se reconstituent à partir de 1944. Je dis bien ces deux syndicats parce que la CFTC en général et l'Union indépartementale de la Loire et de la Haute-Loire de la CFTC refuse l'unité organique proposée par la CGT dès la fin 1944 pour se constituer en force autonome. Dans cette reconstitution des syndicats, on va assister à une lutte entre deux tendances, je pense que c'est important de signaler, une tendance qui est favorable à la collaboration de classe, au syndicalisme chrétien traditionnel, qui est représenté par un homme qui a été assez connu dans la Loire, qui s'appelait Éloi Chacornac, qui est ensuite devenu directeur de la Dépêche, et une tendance nouvelle, qui comporte des anciens et des nouveaux, qui est représentée par un homme qui s'appelle René Matevet, qui deviendra secrétaire général de la CFTC de la Loire en 1946 et qui va s'appuyer à la fois sur des anciens et puis sur de jeunes militants qui viennent de la JOC, par exemple Jean Rochatin, Claudius Ravachol, etc.
Précisons peut-être les sigles, Jean-Paul.
Alors,
JOC.
Alors, JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, voilà. Qui va constituer un vivier important de militants, d'ailleurs, non seulement pour la CFTC, mais pour la CGT et également pour Force ouvrière, dont nous parlerons tout à l'heure. Que dire encore d'autre ? Donc, ce courant-là va à la fois être refusé l'unité organique, mais être disposé, dans certaines limites, à l'unité d'action avec la CGT. Bon, je pense que je peux maintenant passer la parole à Jean-Michel.
Oui, ce refus de l'unité organique Ce refus d'unité organique peut être présenté comme un premier échec de la CGT, puisque depuis 1943, et dans la clandestinité, la reconstitution d'une certaine unité syndicale, la CGT pensait bien pouvoir redevenir ce qu'elle avait été avant 1919, c'est-à-dire la centrale ouvrière unique. Or, la CFTC donc refuse cette perspective et, contrairement à ce que pouvaient envisager les CGTistes, ce refus s'avère durable. Donc ce refus de l'unité organique, premier revers en quelque sorte pour la CGT. En même temps, si on se place en 1945, eh bien incontestablement la CGT domine. La CGT représente presque 100 000 syndiqués, 80 à 100 000 syndiqués dans la Loire. Le rapport est au moins de 1 à 4, peut-être même de 1 à 5.
1 à 5, oui.
De 1 à 5. C'est un syndicat massif, beaucoup plus imposant qu'il ne l'est aujourd'hui. Il suffit de voir les photographies que l'on peut trouver dans la presse ou dans les archives. En même temps, cette CGT, donc, qui s'est réunifiée en 1943, on avait montré comment elle s'était divisée en 1939, cette CGT maintient malgré tout une existence de deux tendances qui existent depuis la scission originelle de 1922, c'est-à-dire la tendance des unitaires, qu'on va appeler les ex-unitaires, qui sont proches du Parti communiste, et la tendance des confédérés, qu'on va appeler les ex-confédérés, que l'on dit proches de la SFIO, mais c'est quand même plus lâche comme lien que celui qui existe entre les unitaires et le Parti communiste. Alors, si on veut bien considérer les choses, sur le plan local, je dirais que l'affaire est pliée. Au printemps 1945, il est clair que les unitaires sont largement dominants dans l'union départementale. Pratiquement tous les dirigeants des fédérations, je ne vais pas prendre le détail, mais on pourrait citer pas mal, comme Roussillon pour les métaux, par exemple, tous les dirigeants des fédérations de métiers sont des gens qui sont liés au Parti communiste, qu'on retrouve à l'intérieur du comité fédéral du Parti communiste. Donc la CGT Loire est une fédération en 1945 à large tonalité communiste. En même temps, les ex-confédérés subsistent. S'ils sont faibles dans la Loire, c'est parce que la SFIO de la Loire a été peut-être moins enthousiaste dans un premier temps, en tout cas moins engagée dans la résistance qu'elle ne l'a été au niveau national. Alors au niveau national, les deux tendances subsistent, mais dans un premier temps les ex-confédérés apparaissent plutôt à égalité, je dirais à égalité avec les communistes, si l'on veut bien considérer la constitution de la commission ou du secrétariat national. Alors, qu'est-ce qui va donner un certain avantage au Parti communiste ? D'abord, c'est un parti qui apparaît plus actif, plus intéressant pour les jeunes générations. Or, la CGT, en 1944-1945, recrute beaucoup. Or, ce que les études ont montré, c'est que beaucoup des nouveaux adhérents se sentent plus proches de cette mouvance active qu'est la mouvance des ex-unitaires. En même temps, sur le plan de l'organisation, eh bien, on a à peu près un jeu égal. Hein. La CGT est dirigée par un secrétariat dans lequel le principal secrétaire s'appelle toujours Jouot, qui était un ex-confédéré. Le problème, c'est que les ex-confédérés qui étaient de stature à faire le jeu égal avec les communistes vont se retrouver à différents moments dans l'incapacité d'agir. D'abord Jouot, parce qu'il est déporté en Allemagne et qu'il ne rentre qu'en avril 1945. Or, l'essentiel du travail a été fait par les unitaires entre octobre 1944 et avril 1945. Ensuite, parce qu'à l'intérieur des ex-confédérés, on a des hommes comme Robert Lacoste, ou comme Christian Pinault, qui étaient effectivement des syndicalistes actifs qui auraient pu peser d'un poids, notamment dans les tactiques, qui vont se retrouver ministres et qui, de ce fait, ne sont plus à l'intérieur du syndicat. Donc, les unitaires vont finir par l'emporter aussi au niveau national. Alors, malgré tout, là, je vais m'en terminer par là, la coupure entre les deux tendances subsiste par l'existence de deux organes, et c'est important de le retenir parce qu'on va les retrouver par la suite, du moins des appellations. D'abord, la vie ouvrière, l'organe historique, qui existe toujours et qui est contrôlé, on va le dire, par les ex-unitaires. Et puis un organe qui soutient les ex-confédérés, qui prend le titre de résistance ouvrière et qui est créé en octobre 1944. Donc finalement, on a une CGT qui apparaît unie, dans laquelle on va avoir donc une division, au moins sur le plan de la représentation journalistique. Dans cette CGT, l'été 45, je terminerai par là, va constituer un moment clé, disons que de juillet 45 jusqu'à novembre 45. D'abord parce que la CGT, la tendance ex-unitaire s'engage politiquement beaucoup plus fortement que la tendance ex-confédérée. Elle a soutenu, on voit à Saint-Étienne par exemple, les listes dans lesquelles le Parti communiste était présent aux élections municipales. Elle va les soutenir aux élections législatives d'octobre 1945. En même temps, le premier conflit qui va se jouer à l'échelle nationale entre Jouot qui est rentré et Frachon qui est le deuxième secrétaire national qui représente les ex-unitaires va porter sur le référendum qui a lieu le 21 octobre 45. Le 21 octobre 45, je rappelle rapidement, les Français élisent des députés et ils vont décider si ces députés sont des députés ordinaires ou bien s'ils vont constituer une assemblée constituante, c'est-à-dire chargée de donner une nouvelle constitution à la France. Or, 90% des Français a approuvé l'idée que cette assemblée n'était pas une assemblée législative ordinaire, mais qu'elle serait une assemblée constituante. Donc ça, c'était l'objet du référendum du 21 octobre. Ce qu'on oublie souvent, c'est que ce 21 octobre 45, il y avait non pas une question, mais deux questions. Et la deuxième question est très importante parce qu'elle proposait aux Français de faire que cette constituante soit une assemblée souveraine, c'est-à-dire qu'en fait, ce soit elle qui exerce finalement le pouvoir gouvernemental. Et un petit peu comme ça avait été le cas à l'époque de la Convention en 1793 ou de l'Assemblée constituante de 1848. Et là, à l'intérieur du camp résistant qui a massivement soutenu l'idée d'une constituante, eh bien, on a une fracture entre le MRP et les gaullistes qui veulent pas que cette assemblée soit constituante, qui veut pas que cette assemblée soit souveraine, qui veut qu'elle n'ait comme seul rôle de le vote de la constitution, et puis les communistes qui soutiennent l'idée d'une assemblée qui serait toute puissante. Et la CGT va soutenir ce point de vue. Et ça va créer donc ça va commencer à créer un vrai malaise à l'intérieur de la direction nationale de la CGT.
On fait une première pause musicale dans cette émission, après cette première partie. Une pause musicale que Jean-Paul, peut-être, tu voulais présenter. Il s'agit de Armand Mestral. Alors, le titre Sestone.
Oui, c'est une reprise et qui date du temps de ma jeunesse, qui est ancien maintenant. Et cette chanson, qui était à la mode dans les années 50 en France, est une reprise d'une chanson américaine dont nous n'avons pas retrouvé les références, s'appelait Sixteen Tones.
Exactement, mais je viens de retrouver les références,
très bien,
justement.
Lionel,
c'est effectivement Sixteen Tones, donc c'est une musique de Merle Travis qui a été écrite en, en 1946, si je ne me trompe, et qui a été popularisé par un chanteur de country, enfin créé par ce chanteur de country Merle Travis, mais qui a été popularisé par Tennessee Ernie Ford en 1955 surtout.
D'accord.
Donc voilà pour les références américaines. Très mais bien. Là, c'est un chanteur aussi comédien, même si des années 50.
Voilà.
Armand Mestral, donc version française, Sexton.
Si l'homme est de la boue pour des tas de gens, il est pour moi fait de chair et de sang, de muscles de fer, de cœur trop bon, avec deux épaules pour charger le charbon. T'en fais 16 tonnes, ça donne quoi? Un jour de plus, bien quatre planches de bois. L'appel chaque jour qui prend plus de poids, mais qui ferait vivre la mine sans toi. Quand ta mère a déjà cinq gosses à nourrir, un tu n'est pas pour lui faire plaisir. Alors toi tu bosses comme un lion, mais le chef a pour dire que tu es un champion. Un champion. Laisse-moi me marrer. T'en fais 16 tonnes, ça donne quoi? Un jour de plus, bien quatre planches de bois. La crasse qui te ronge et durcit tes doigts, et le droit de te taire quand tu touches ton moi. À force de te battre comme un damné, l'envie de te prendre, d'envoyer tout promener. Et s'il y a tous les rêves de tes copains, alors tu la boucles mais tu serres les poings. T'en fais 16 tonnes, ça te donne quoi? Un jour de plus, vers quatre planches de bois. Et pour te consoler de voir ce que tu vois, l'idée que ton père l'a vu avant toi. Mais si toute la semaine tu crèves en bras, dimanche enfin tout le ciel est à toi, et dans tes draps blonds dès ton réveil, les yeux de ta femme sont comme du soleil. T'en fais 16 tonnes, ça te donne quoi? Un jour quand même où tu peux croire à la joie, l'espoir d'une autre vie pour tes deux petits gants. Et toute la mine qui pense comme toi.
Sexton, version française par Armand Mestral, par ce chanteur à succès américain de country, Merle Travis, et popularisé par Tennessee Ford en 1955. On poursuit cette émission, deuxième partie, sur donc la naissance de FO après-guerre.
Voilà. Et il me semble que cette chanson-là que je viens de réécouter en entier donne une bonne idée, quand même, de quelque chose qui a été très important à l'époque, qui est ce qu'on a appelé la bataille de la production. La France de l'après-guerre est une France largement en ruine, où il faut absolument reconstruire. Et on va dire que le PCF, la société veut reconstruire, mais le PCF et la CGT se font les ardents défenseurs de la reconstruction de l'économie française, lancent une bataille de la production, et une bataille de la production qui va même aller parfois, vers un certain amoindrissement, vers une non-défense des revendications des travailleurs. Et Jean-Michel évoquait un premier clivage au sein de la CFDT. Si on se place maintenant de la CGT, excusez-moi du lapsus, si on se place maintenant au niveau de la CGT dans la Loire, il va y avoir des clivages qui vont se produire en 1946. Le premier, c'est donc dans une période où la CGT s'affirme contre les grèves qui pourraient nuire à la production. Il y a le syndicat du livre de la CGT qui lance une grève. Et donc ce syndicat du livre lance la grève et l'UDCGT lui apporte un certain soutien. On va dire, parce qu'elle peut guère faire autrement, mais quand même, ils ne sont pas dans la ligne de l'époque. Et c'est peut-être un premier signe dans la Loire que les ouvriers ont des revendications à satisfaire, y compris dans ces temps-là. Et il va y avoir un deuxième signe de cela, et qui va avoir des conséquences plus importantes. C'est qu'en juillet 46, il y a un conflit qui éclate dans les postes, et ce conflit est mené à l'origine par des militants CGT auxquels s'associe la CFTC, et va se constituer un comité national de grève. Et ce comité national de grève va être accusé par la CGT de collusion avec le pétainisme, ce qui est une accusation assez grave et quand même, semble-t-il, sans beaucoup de fondement. Mais ce fait reflète une division. La moitié des employés PTT de la Loire sont sans doute font référence à ce comité national de grève, et dès l'automne 1946, il y a une scission à l'intérieur de la CGT et s'organise une fédération syndicaliste des PTT qui va être sans doute une des premières organisations qui constituera ensuite le syndicat Force ouvrière. Mais il y a d'autres événements qui vont se produire dans la CGT, et en particulier une bataille sur la question des statuts, dont Jean-Michel va nous parler maintenant.
Oui, la question des statuts est une question très importante qui peut-être a priori sembler aride, mais qui en même et c'est souvent sous des aspects juridiques que se cristallisent des positions qui sont fondamentales. Le 26e congrès confédéral qui est prévu donc pour le printemps 46 doit discuter de la question de la représentation des syndicats et des modalités de vote au congrès. En effet, on peut prendre un exemple des petits syndicats comme le syndicat des typographes, c'est peut-être pas le plus petit, mais des petits syndicats qui peuvent, je sais pas, le syndicat des serruriers, le syndicat des cordonniers, par exemple, qui peuvent représenter quelques centaines de syndicalistes, de militants, doivent-ils être jugés à égalité avec des gros syndicats comme la Fédération des métaux, qui représente plusieurs centaines de milliers de mandataires? Eh bien, d'électeurs, pardon. Eh bien, la division entre les unitaires et les confédérés va se cristalliser sur cette question. Je vais laisser la présenter simplement. L'idée, c'est, en gros, il y a deux positions possibles. Soit on considère qu'un syndiqué a droit à une voix et on s'arrête là. Et à ce moment-là, évidemment, ceux qui contrôlent les plus gros syndicats sont assurés de contrôler la Confédération. Soit, au contraire, on considère les petits syndicats doivent être représentés, et donc il faudrait plutôt construire l'architecture des mandats sur l'idée pour une organisation, une voix. Et à ce moment-là, évidemment, les petites fédérations se retrouvent avantagées. Alors la discussion va se cristalliser parce que d'une façon générale, en simplifiant quand même, les ex-unitaires contrôlent les grosses fédérations, les métaux que j'ai cités tout à l'heure, les mineurs, etc. Et les ex-confédérés contrôlent plutôt les petites fédérations, même si on peut trouver des exceptions. Alors l'argument évidemment de la démocratie semble évident et simple. C'est la position des ex-unitaires qui devrait l'emporter. Pour les ex-confédérés, c'est plus compliqué. Ils disent en gros que les gros syndicats peuvent être, lors d'une assemblée générale, représentés par un très petit nombre. Il y a un article qui est paru justement dans le journal que j'ai cité tout à l'heure, qui entre-temps s'est transformé de résistance ouvrière en force ouvrière, le 4 avril 1946, il cite le cas d'un syndicat de cheminots qui groupait 6000 adhérents, qui a tenu son assemblée générale avec 137 membres, et puis un petit syndicat de 300 membres qui avait réuni 150 membres. Donc tout le monde sait bien, dit cet article, que les réunions sont plus suivies dans les petits et moyens syndicats que dans les gros syndicats. Donc c'est ça, cette idée qui est derrière, c'est que finalement les gros syndicats peuvent être manipulés par des positions politiques. Donc l'opposition va se faire sur cette question des statuts entre les deux tendances. Alors après, à partir de là, donc, on a effectivement une cristallisation des oppositions qui va se manifester dans l'année 1947. L'année 1947, on a parlé de la bataille de la production. Le Parti communiste s'est engagé à fond dans cette bataille de la production. Et en 1947, il est chassé du pouvoir. Les ministres communistes sont révoqués par le président du Conseil dans un contexte de guerre froide. Et tout d'un coup, on assiste à une brutale montée des activités grévistes, hein, une brutale poussée sociale, à tel point que le président du Conseil, Paul Ramadier, va parler d'un chef d'orchestre clandestin. Mais c'est incontestable qu'il y a une poussée syndicale, une poussée sociale très nette à partir du mois de mai et juin 1947. Alors, est-ce qu'il s'agit de grève politique? Est-ce qu'il s'agit d'un véritable malaise social? Je crois qu'on peut réunir les deux thèses en disant qu'il y a un vrai malaise social, effectivement. La classe ouvrière s'est beaucoup battue pour la reconstruction, pour la bataille de la production. Elle semble... déçus parce que les retombées ne sont pas encore là, surtout parce qu'il y a une très forte inflation et que le salaire court derrière la hausse des prix. Donc ça provoque un véritable mécontentement qui d'ailleurs a été une des causes de la grève des postes en 1946. Et ça va déboucher sur la grande crise de novembre-décembre 1947 avec des grèves insurrectionnelles qui ont donné lieu notamment à Saint-Étienne le 29 novembre et le 4 décembre à des véritables journées d'émeutes dans les rues de la ville. Cette grève de novembre-décembre 1947, si elle a une motivation sociale évidente, elle a quand même été quelque part un peu instrumentalisée et utilisée par le PC, et c'est ça qui va créer la rupture définitive. Les gens de FO vont dire, décidément, on ne peut pas rester dans cette organisation qui est trop liée, qui est trop conduite par les directives venues du Parti communiste. C'est là-dessus que va se créer finalement la rupture.
Nouvelle pause musicale à la mi-émission. On est à la moitié de ce programme. Alors, comme on a un petit peu de temps, je vous propose de faire une pause musicale avec le poète Jacques Prévert, qui a été mis en musique par un musicien, auteur, qui s'appelle Frédéric Nefché-Irlian, qui vient de sortir, qui s'appelle « Le soleil brille pour tout le monde ». Il a simplement eu l'occasion de rencontrer la petite fille du poète, Eugénie Bachelot-Prévert. Il avait travaillé pour un documentaire pour la télévision. Et finalement, la petite fille du poète, Eugénie Bachelot-Prévert, lui a proposé de découvrir d'autres poèmes de son grand-père qui sont assez surprenants et assez méconnus du poète, beaucoup plus militants, plus engagés, plus farouches, des textes qui sont là pour faire face aussi aux inégalités, à l'exploitation de l'homme par l'homme, à la bourgeoisie provocante, aux petits clans. C'est un peu l'idée de ce recueil de poèmes mis en musique donc par ce musicien, Nefché-Irlian. Alors, on avait évoqué ensemble l'occasion de diffuser « Travailleur, attention », ce petit court poème. Mais puisque tu viens parler de grève, de baisse des salaires et autres, je vous propose, si vous êtes d'accord, de découvrir ce titre qui s'appelle « Citroën », et qui est un petit peu plus long, et qui fait l'éloge de la grève. Alors là, on sera avant-guerre.
Oui,
on
sera en grève de 1933.
Exactement. Avec donc 600 ouvriers qui s'étaient mis en grève à l'usine Citroën de Saint-Ouen. Est-ce que ça vous va d'écouter
si
ce texte?
Je peux me permettre, je crois que ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'en 1933-34, le Parti communiste abandonne la position classe contre classe, qui était une position très dure, de lutte de classe très, très exacerbée, pour adopter la position au Front populaire. Et finalement, si on fait un peu l'impasse, c'est un peu gros, mais enfin, l'impasse sur la guerre, cette politique de Front populaire, il la retrouve en 1944. Et en 1947, il l'abandonne pour revenir à une politique classe contre classe. Donc c'est pas complètement hors propos, quoi.
Hors sujet, mais voilà. un poil décalé. Mais on se l'écoute. C'est le titre Citroën, Prévert par le musicien Nevchaïr Lyon.
Dans les sales quartiers de misère, ce sont de petites lueurs qui luisent. Quelque chose de faiblard, de discret, de petites lanternes déquinquées. Sur Paris endormi, une grande lumière grimpe sur la tour. Une lumière toute crue. Citroën, Citroën. C'est le nom d'un petit homme. Un petit homme avec des chiffres dans la tête. Un petit homme avec un sale regard derrière son lorgnon. Un petit homme qui ne connaît qu'une seule chanson, toujours la même. Bénéfice net, millions, millions. Une chanson avec des chiffres qui tombent en rond. 500 voitures, 600 voitures par jour. Trottinette, caravane, expédition, auto-chenille, camion. Bénéfice net, millions, millions. Citron, citron. Même en rêve, il entend son nom. 500, 600, 700 voitures, 800 autocamions, 800 tanks par jour, 2000 corbillards par jour. Et que ça roule. Il sourit, il continue en chanson. Il n'entend pas la voix des hommes qui fabriquent. Il n'entend pas la voix des ouvriers. Ils sont fous des ouvriers, lui. Un ouvrier, c'est comme un vieux pneu. Quand il y en a un qui crève, on n'entend pas crever. Citroën n'écoute pas. Citroën n'entend pas. Il est dur de la feuille pour ce qui est des ouvriers. Pourtant au casino, il entend bien la voix du croupier. 1 million, monsieur Citroën, 1 million. S'il gagne, c'est tant mieux, c'est gagné. S'il perd, ce n'est pas lui qui perd. Ce sont ses ouvriers. Ce sont ses ouvriers. C'est toujours ceux qui fabriquent qui, en fin de compte, sont fabriqués. Et le voilà qui se promène à Deauville, le voilà à Cannes qui sort du casino, le voilà à Nice qui fait le beau sur la promenade des Anglais. Petit veston clair, beau temps aujourd'hui. Le voilà qui se promène, qui prend l'air. À Paris aussi, il prend l'air. Il prend l'air des ouvriers. Il leur prend l'air, le temps, la vie. Et quand il y en a un qui crache ses poumons dans l'atelier, ses poumons abîmés par le sable et les acides, il lui refuse une bouteille de lait. Une bouteille de lait? Qu'est-ce que ça peut lui foutre? Il n'est pas laitier, il est Citroën. Il a son nom sur la tour, il a des colonels sous ses ordres, des généraux, gardes chiourmes, espions. Les journalistes mangent dans sa main. Le préfet de police rampe sur son paillasson. Citron? Citron? Millions, millions. Et si le chiffre d'affaires vient à baisser? Que malgré tout, le bénéfice ne diminue pas. Il suffit d'augmenter la cadence et de baisser le salaire des ouvriers. Baisser les salaires. Mais ce qu'on a trop longtemps tondu en caniche, cela garde encore une mâchoire de loup pour mordre, pour se défendre, oui, pour attaquer, pour faire la grève. La grève. La grève. Vive la grève.
Frédéric Nevchaïr Lyon a mis en musique ces textes de Jacques Prévert. Je vous le disais, des textes plutôt méconnus hein, du poète. C'est sur cet album « Le soleil brille pour tout le monde » distribué par l'autre distribution. Mais on le disait, c'est un texte donc, qui date d'avant-guerre. On est en 1934. Mais on retourne après-guerre sur la naissance de F.O. avec Jean-Paul Bentière et Jean-Michel Steiner. Pour cette émission spéciale, donc réalisée avec le GREMOS, on vous le rappelle, groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Je cède à nouveau la parole donc à Jean-Paul Bentière pour poursuivre.
Voilà, ben, c'est un très beau poème. et qui montre bien aussi... enfin, Jean-Michel parlait de la politique classe contre classe ou de la politique front populaire qui a pu soutenir le PCF à un moment ou à un autre, moment qu'il a mentionné. On voit bien aussi qu'existe dans le mouvement ouvrier, et dans le mouvement ouvrier stéphanois en particulier, une tendance, on va dire, dure, une tendance anarcho-syndicaliste. Voilà. Et... Je reviens en 47, et après, c'est à l'occasion de ces grèves insurrectionnelles de 47, lancées par le PCF et la CGT, les militants de la tendance force ouvrière de FO ne veulent plus suivre, et on dit qu'ils imposent à Edmond Jouot, secrétaire donc de la CGT, la rupture. Et la rupture et la création de FO, de ce qui s'appelle la Confédération Générale des Travailleurs Force Ouvrière, parce qu'ils vont garder ce nom, CGT-FO, en décembre 1947. Dans la Loire, va être créé un comité provisoire, et ce comité provisoire tiendra son congrès constitutif en mai 1948. Il faut bien voir que les débuts de FO dans la Loire sont des débuts très difficiles. Et en particulier parce que le syndicat du livre dont nous avions parlé tout à l'heure, ce syndicat du livre qui faisait partie de la tendance force ouvrière, le syndicat du livre et la fédération du livre au niveau national décident de faire un référendum. On va dire, bien qu'étant sur la tendance force ouvrière, il décide de faire un référendum et de s'affilier, soit de rester affilié à la CGT, et d'y constituer une fédération, donc une fédération, soit de s'affilier à la confédération CGT force ouvrière. Et le résultat donne une majorité au niveau national pour le maintien dans la confédération CGT. Ce qui veut dire que peut-être ce qui pouvait être une des principales forces de cette tendance force ouvrière dans la Loire ne va pas participer à la nouvelle union des syndicats FO dans la Loire. Et alors, la situation est vraiment difficile. FO dans la Loire va bénéficier d'un sérieux coup de main de l'UDC-FTC. L'UDC-FTC va... prêter des bureaux, l'UDC-FTC va imprimer les cartes pour l'Union départementale force ouvrière. Et s'ils font ça, si l'UDC-FTC mène cette politique, on peut donner deux raisons. Il y a une première raison qui est une parenté entre certains membres de l'Union départementale CFTC et de l'Union départementale Force ouvrière. Alors, il y a une parenté familiale avec Jean-Michel tout à l'heure. On parlait de Maurice Gonin. Maurice Gonin qui est un militant important de l'UDC-FTC CFTC de la Loire à cette époque, qui va devenir un dirigeant national de la CFTC puis de la CFDT. En fait, a un père qui est un ancien de la CGT d'avant la guerre et qui va rester à la CGT Force ouvrière. Voilà. Autre parenté, c'est que...
C'est
Marcel Gonin. Décidément, j'aurais fait plusieurs lapsus. Je veux dire autre chose, c'est qu'un certain nombre donc, de dirigeants et de militants de la CFTC de l'époque viennent de la jeunesse ouvrière chrétienne dont on parlait tout à l'heure, et le premier secrétaire départemental de la CGT-FO, Tony Père, vient lui-même de la jeunesse ouvrière. Donc il y a ces rapprochements-là. Et puis, quelque part, je crois que dans l'UDC-FTC, il y a l'idée que pour faire contrepoids à la puissance de la CGT, on peut faire un bout de chemin avec FO, et même plus loin que ça, il est à signaler qu'UL, l'UL-CFTC de Saint-Chamond, à ce moment-là, dit qu'il faudrait supprimer le deuxième C de CFTC pour faire une confédération des travailleurs, on y donnerait un nom, à laquelle pourraient se rallier les militants de FO. Et cette idée-là va rester présente dans la CFTC jusqu'à... donc là, on va faire un saut dans le temps beaucoup plus lointain, mais jusqu'à la création de la CFDT, Confédération démocratique du travail, à partir de la CFTC en 1964. Il y a encore des gens qui sont pour cette unité, et cette unité qui ne se réalisera pas et qui n'est toujours pas réalisée à l'heure actuelle. Bien, voilà. Donc, je vais redonner la parole à Jean-Michel pour développer un petit peu sur Force ouvrière.
Oui. En fait, ce que tu viens de dire est intéressant parce que ça nous montre une chose qui est un peu occultée, mais qui est en arrière-plan. C'est que le problème de la CFTC, c'est le C. Mmh. Et que dans le mouvement ouvrier, il y a cette tradition anticléricale existe. Et que ce qui a retenu effectivement ces gens de FO d'aller à la CFTC, c'est son caractère confessionnel. Même si des gens comme Matvey sont déjà partisans de la déconfessionnalisation. Sans doute, si la CFTC l'avait fait tout de suite, on n'aurait eu que deux syndicats. Sans doute. Hein. Bon, on ne va pas faire de la rétro-histoire, mais je crois que c'est un point qu'il faut souligner. Alors, la question de l'unité, c'est une grave question, parce que c'est bien, finalement, cette émission nous ramène en plein dans l'actualité, parce qu'aujourd'hui, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est cinq ou six syndicats qu'on a en France. Et cette question de l'unité, évidemment, elle est décisive dans cette période. Parce que les unitaires qui sont majoritaires à l'intérieur de la CGT disent unité, unité, unité. Alors, si vous voulez en chercher un bon exemple dans la région, allez relire ce qu'écrit Joseph Sangdols dans son petit livre « Le chant de l'Alouette », où il montre bien comment c'est entre novembre 47 et décembre 48 que s'est jouée la fracture, c'est-à-dire entre la grande grève générale de l'automne 47 et la grève générale des mineurs de l'automne 48, où il décrit une assemblée générale qui a lieu à Roche-la-Molière, au cours de laquelle Jean Rullière vient annoncer aux mineurs qu'ils sont en train de créer le syndicat CGTFO des mineurs. Et quand on lit, moi je l'ai relu récemment, le texte de Sangdols, on sent bien que c'est un homme pour qui le syndicat était tout. Et qui tout d'un coup, là, il voit que son syndicat, on est en train de le détruire. Et donc, c'est un vrai drame pour la classe ouvrière, c'est un vrai drame pour les militants. Et je crois que ça, c'est une chose qu'il ne faut absolument pas oublier. En même temps, bien sûr, la politisation de l'action syndicale par le parti, dans un sens ou dans l'autre, politisation au moment de la bataille de la production. Finalement, on disait aux ouvriers... Vous ne revendiquez pas parce que c'est la bataille de la production qui va au premier plan. Et puis tout d'un coup, quand on abandonne le pouvoir politisation dans le sens des luttes, ça n'a pas rendu service évident. Les militants cégétistes anciens le reconnaissent aujourd'hui. Il y a une erreur politique. Donc finalement, qu'est-ce qui va faire le succès relatif de FO dans la Loire et dans le pays ? Alors, je passe sur un aspect qui n'est pas complètement négligeable, mais rapidement, outre la CFTC locale, et le Parti communiste et la CGT unitaire a beaucoup insisté sur le fait que la création de FO est un acte de guerre froide et qu'elle a été notablement aidée par ce que les communistes appellent l'argent américain. C'est vrai que il faut le reconnaître aujourd'hui. Il y a eu des fonds qui ont été versés par l'American Federation of Labor et la FLCIO. Quand on lit les comptes rendus des premières réunions de CGTFO en début 47, début 48, la question de l'argent est décisive parce qu'ils n'ont aucune ressource. Donc sans ressources, pas question de créer... Un syndicat. Donc il ne faut pas l'oublier. Mais en même temps, évidemment, ce qui va assurer le succès de FO, c'est que finalement, c'est un syndicat qui veut revenir aux origines du syndicalisme, c'est-à-dire à la charte d'Amiens. Trop de politique a tué le syndicalisme. C'est ça la grande idée de FO. Et donc il faut revenir à une tradition dans laquelle le syndicat est indépendant de toute action politique. Donc, il va rencontrer un certain succès, dans, dans un monde ouvrier stéphanois où l'anarcho-syndicalisme, par-delà les vicissitudes et les aléas qu'on a connus depuis la guerre de 14, a conservé une certaine audience. Ce qui explique qu'on va retrouver des militants libertaires à l'intérieur de FO. Alors ça nous donne une organisation assez particulière parce qu'on a des militants libertaires qui sont séduits par ce retour à la charte d'Amiens. Alors même que la CNT s'est créée dans la Loire, en fait, elle n'aura pas le succès qu'elle aurait pu obtenir puisque certains militants libertaires préfèrent aller à la CGT-FO. Elle conserve évidemment une certaine audience des militants qui se sentent proches du parti socialiste et qui a toujours tenu justement à ne pas intervenir de façon léniniste dans l'action du parti du syndicat. Et puis, aux surprises, début 48, elle va rencontrer là une certaine audience dans le courant gaulliste. Je rappelle que le 4 janvier 1948, De Gaulle est présent à Saint-Étienne, qu'il fait un très grand discours sur la place du monde du travail dans la République française. Et il va appeler donc à cette idée qui a été un peu gaussée par certains d'une participation, il la reprend en 68 cette idée, d'une participation des ouvriers au bénéfice de l'entreprise. Donc l'action, l'activité, la liaison entre patronat et ouvriers peut se faire sur la forme de ce qu'il a appelé l'intéressement des ouvriers. Et donc les gaullistes vont s'investir dans Force ouvrière. Alors là encore, on a une intervention qui est un peu un jeu de dupes, parce que pour certains gaullistes, c'est surtout la volonté d'affaiblir le Parti communiste. La puissance du Parti communiste reposait notamment sur la CGT. Pour d'autres, et là, moi j'ai travaillé un peu sur les archives de ce qu'on appelle l'action ouvrière, donc qui est créé par le RPF à l'époque, ces archives qui sont conservées plutôt à l'Institut Charles de Gaulle à Paris. Et là, on a des militants qui sont sincèrement convaincus par le discours du général de Gaulle et qui vont aller à fond. Donc on va créer des comités d'action ouvrière dans certaines branches, donc dans les mines à Rive-de-Gier, à Roche-la-Molière, pardon, dans les aciéries à Saint-Chamond. L'action ouvrière a représenté une certaine tendance. Mais la droitisation du RPF va faire que ce mouvement a avorté assez vite. Mais donc, on voit que FO répond quand même à une certaine attente de la part de ces ouvriers qui sont déçus par l'engagement beaucoup trop pro-communiste et je dirais même beaucoup trop pro-soviétique de la CGT. Et donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette organisation donc, qui se crée et qui commence à connaître un certain succès à partir de la fin 48. La grève des mineurs a contribué à diriger un certain nombre de mineurs qui n'ont pas apprécié la violence, les pressions organisées contre ce que la CGT unitaire appelle les « jaunes ». Les renards. Donc le climat de la grève des mineurs a fortement contribué à accentuer le fait qu'un certain nombre de mineurs, de mineurs et de non-mineurs se tournent vers le syndicat CGT. CGT-FO. Mais finalement, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que la plus grande masse des ouvriers va choisir la désyndicalisation. Et c'est ça, finalement, que cette crise à répétition qu'on voit se nouer entre 47 et 48, eh bien, elle va aboutir à une très nette décrue du nombre des syndiqués et ceci au préjudice évidemment de l'intérêt, de la défense des intérêts des revendications, comme on dit.
Jusqu'à une scission, du coup, qui sera effective quand ?
Elle est effective, on va dire, à l'été 48.
D'accord.
À l'été 48. Et on aurait pu, par contre, ce qu'on pourrait dire, si on va se projeter jusqu'à aujourd'hui, excuse-moi Jean-Paul, ce qu'on aurait pu, c'est que peut-être imaginer que la fin du monde soviétique en 89-90 permette la réunification. Ça n'a pas été possible. Et ça, ce serait l'objet, évidemment, d'une autre débat. Non seulement ça n'a pas été possible, mais au contraire, l'éclatement s'est amplifié.
Je vous propose de faire une nouvelle dernière pause musicale. Got My Mojo Working, c'est un morceau qui date de 1956, écrit à l'origine par Preston Foster et qui a été surtout popularisé par le grand Muddy Waters. C'était en 1957.
Just don't worry, gon' you. Got my mojo working, but just don't worry, gon' you. I wanna love you so bad, till I don't know what to do. I'm going down in Louisiana to get me a mojo, hey. Going down in Louisiana to get me a mojo, hey. I'm gonna have all you women reaching out to me. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working.
Got my mojo working.
Got my mojo working.
Got my mojo.
Got my mojo working, but just don't work on you. Lay it on me one time. Gypsy woman giving me advice. I got a gypsy woman giving me advice. I got a whole lot of tricks keeping here all night. Got my mojo working.
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 Got my mojo working, but it just don't work on you. Got my mojo working.
My mojo working.
My mojo working.
Jean-Michel et Lionel, on parlait de la question de l'unité et de l'unité syndicale, et c'est une question extrêmement importante. Il faut rajouter un point, c'est que de la même époque date une autre organisation syndicale, qui est la Fédération d'éducation nationale. La Fédération d'éducation nationale, elle faisait partie de la CGT. Avec la scission de FO, au sein de la Fédération de l'éducation nationale, les conflits vont être très présents. En gros, il va y avoir trois courants. Je vais vite là. Mais il va y avoir trois courants. Un courant qui veut se rattacher à la CGT. Un courant qui voudrait se rattacher à FO. Et il y a par exemple quelqu'un qui est très connu dans la Loire, qui est Félix Franc, secrétaire de la FEN en 1968, qui assiste au congrès constitutif de FO. Voilà. Et puis donc, un courant qui voudrait se constituer en syndicat autonome. Et Félix Franc m'a expliqué, dans un entretien, que lui, il était contre un syndicat d'enseignants. C'est pour ça qu'il était allé à FO. Mais qu'à FO, eh ben, il se retrouve avec très peu de monde avec lui. Et donc, ce qui va se passer, c'est que va se fonder en 1948-1949, j'ai plus les dates précisément en tête, la Fédération d'éducation nationale. Jean-Michel, tu veux dire
non, je voulais juste dire que sur la liste des membres de la commission exécutive approuvée par le Congrès d'avril, Félix Franc apparaît, instituteur, et barré ensuite.
D'accord. Voilà.
C'est intéressant.
De... Voilà. Mais, très bien. Et alors, donc, ça fait quatre organisations. La CGT, la CGTFO, la FEN et la CFTC de l'époque. J'ai dit tout à l'heure que la CFTC avait aidé l'UDFO à se constituer. Et parce que question de constituer un ensemble par rapport à la masse, à la supériorité de la CGT, eh bien, va se fonder en 1949 un comité de liaison intersyndicale de la Loire qui comprend FO, la FEN et la CFTC. Ce comité de liaison, il va ensuite se poursuivre dans les années 50 et 60 par une table ronde des syndicats de la Loire avec la participation du fameux syndicat CGT du Livre dont on a déjà parlé plusieurs fois. Et on va avoir ces quatre organisations qui vont réfléchir ensemble, prendre des décisions communes malgré l'appartenance du syndicat CGT du Livre à la CGT. Un autre mot encore, ça, il faut aller très vite. La CFTC va être sur cette ligne d'unité avec FO et la FEN jusqu'en 1964. Et il va y avoir un changement. À partir de 1964 et l'évolution de la CFTC en CFDT, la CFDT va choisir, mais en partie à cause du refus de FO, de passer un accord d'unité d'action avec la CGT, et on va avoir là une longue période, non pas d'unité organique, mais une période qui va en gros de 65 jusqu'en 79, d'unité d'action, avec des désaccords bien sûr, mais d'unité d'action entre l'UDCFDT de la Loire et l'UDCGT de la Loire.
Ça, c'est
voilà,
une histoire.
Peut-être un dernier mot, après toute cette période heurtée, il faut attendre novembre 49 pour que les trois UD, CGT, CFDT et FO, appellent ensemble à une grève interprofessionnelle. Voilà. Voilà ce qu'on, il me semble, ce qu'on pouvait dire sur cette période. Je te redonne la parole, Lionel.
C'est déjà beaucoup. Ben non, simplement, on va boucler et conclure. On vous retrouvera sans doute pour une autre émission durant cette saison. D'histoire, il sera toujours et encore question, bien entendu, sur cette mémoire des mondes ouvriers stéphanois. Simplement, quelques prochains rendez-vous très rapidement. On parlait de la grève des mineurs. De la mine, il va être question pour la prochaine émission. Ce sera le 15 novembre, sur Duo, bien entendu, à l'occasion de l'exposition d'ici et de là-bas, Teams Reed Saint-Etienne, mémoire de mineurs, qui est actuellement visible sur l'expo. Catherine Gauthier et Daman Boisis, qui ont participé très activement, bien entendu, à cette installation, seront présents pour nous parler de cela. En vue de la Sainte-Barbe de début décembre, bien entendu, on aura l'occasion d'annoncer aussi le rendez-vous du 1er décembre à la médiathèque. On a parlé de grève de 48.
Donc la médiathèque, question de... médiathèque de Saint-Chamond, où on va présenter la réimpression du
réédition
livre sur les grèves de 48.
Dont on a encore parlé aussi à l'occasion de la fête du livre passé sur le 8-9-5 de Dieu. On parle aussi, tiens, de 17 octobre 61, puisque c'est un peu la date de commémoration actuellement, ce rendez-vous de ce 20 octobre à la Gueule Noire, rue du Mont à Saint-Étienne, avec la projection du film « Ici, on voit les Algériens » de Yasmina Hadi, que Jean-Michel, nous avions visionné l'année dernière à l'occasion des 50 ans. C'est à la Gueule Noire, avec aussi une performance dansée sur cette tragique événement. C'est à partir de 19h à la Gueule Noire, rue du Mont, ce samedi 20 octobre. Et puis simplement, toute l'Algérie et aussi le cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie sera à l'honneur à la médiathèque de Saint-Étienne cette fois, avec un mois de novembre qui sera un peu dédié à cet événement. On se quitte sur ces infos très rapides. On se retrouve donc le mois prochain. Merci Jean-Paul, merci Jean-Michel.
Merci.
À très bientôt.
À bientôt.
Salut.
Enfin.